Parcours sur Radio Orient avec Loïc Barrière.
Parcours reçoit Mohamed Kaki, fondateur de l'association Les Oranges. Bonjour.
Bonjour.
Qui êtes-vous, Mohamed Kaki ?
Eh bien, je suis Mohamed Kaki. Je suis un citoyen du monde, arrivé en 1968, le 20 août 1968, à Sartrouville, dans les Yvelines. J'étais un petit enfant. Et donc, j'ai eu un parcours assez singulier, à la fois un parcours de tout de suite mis dans le feu de l'action, c'est-à-dire dans une situation difficile, puisque j'avais dans l'école de la République un ancien pied noir qui était mon instituteur et qui nous a fait subir les pires violences. Et dans le même temps, on était en 1968. 1968, c'est le rêve de beaucoup de Français à l'époque de se libérer du joug de la domination, des contraintes, etc. Et nous vivions comme dans deux mondes extrêmement paradoxaux, à la fois nous, petits, dans une école qui s'appelait l'école Paul Bert, l'école de la République, dans une violence inouïe. Et en même temps, à côté, eh bien, il y avait des révolutionnaires qui aspiraient à une autre vie.
Nous allons parler tout à l'heure de votre scolarité, Mohamed Kaki. Où êtes-vous né ?
Alors, je suis né à Biskra. C'est une jolie oasis, ce qu'on appelle la ville des dattes, les Deglet Nor. Une très belle ville qui est la spécialité des dattes, hein. Donc je suis né précisément, en tout cas j'ai été déclaré à Biskra en réalité, puisque mes parents étaient nomades et pendant la guerre d'Algérie, je suis né au mois de le 28 octobre 1960, officiellement, en vérité c'est pas tout à fait ça, je suis né 3 mois avant dans le désert, et le temps qu'ils arrivent à l'oasis, à Biskra, parce qu'il fallait pas se déplacer comme ça, eh bien, ils m'ont déclaré 3 mois après à Biskra. En réalité, j'étais à une quarantaine de kilomètres de Biskra.
Vous êtes arrivé à l'âge de 8 ans en France. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance en Algérie ?
Alors, le souvenir que j'avais, c'est que j'étais un brillant écolier. Et que j'étais déterminé, comme tous ceux de ma génération, je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, tout le monde voulait devenir médecin. Et c'était une évidence. L'Algérie avait besoin de médecins, elle avait besoin de professeurs, etc. Et le top du top, à l'époque, c'était de devenir médecin. Et donc, je travaillais pour devenir médecin et j'étais un brillant élève puisque j'étais premier de la classe à l'époque là-bas et pour nous c'était naturel de travailler.
Vous nous avez dit que vos parents étaient nomades, précisément que faisaient-ils ? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre famille ?
Alors mes parents étaient nomades, c'est-à-dire qu'ils échangeaient des dattes avec d'autres régions, donc ils allaient d'une ville à une autre pour échanger. Ensuite, ils se sont sédentarisés à Biskra. Et aux alentours, parce qu'il y a des villages aux alentours. Vous savez qu'il y a, par exemple, un village qui s'appelle Oumache, qui était celui de mon père, où il y avait des dattiers, donc ils se sont sédentarisés là-dessus. Ensuite, mon père est arrivé une première fois en 1956 en France pour travailler, parce que la situation était extrêmement difficile. J'ai grandi dans cette atmosphère. J'ai eu de la chance puisque je suis né en 1960. C'était encore la guerre et je dirais même les dernières lignes, les deux dernières années étaient très difficiles puisqu'on essayait de mettre la pression sur le peuple algérien. Je m'en suis sorti, donc je suis content d'être en vie.
Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances dans lesquelles vos parents sont arrivés en France ?
Ça s'est fait en deux temps, puisque mon père est arrivé en 1956, dans des circonstances, je dirais, générale, puisque le peuple algérien avait été mis, il faut recontextualiser, dans une situation extrêmement difficile. C'est-à-dire que les conditions de vie étaient extrêmement réduites. Et par ailleurs, la France avait besoin de se reconstruire. On était en 1956, par exemple, quand mon père est arrivé. Lui, il est arrivé pour travailler dans une usine à Courbevoie, qui s'appelait Baroclem à l'époque, une usine de boulons, etc. Donc, dans un premier temps, il travaillait, mais il faisait des allers-retours parce qu'à l'époque, on pouvait venir en France et repartir puisque l'Algérie était la France. Donc, il n'y avait pas besoin de passeport ni de visa. On pouvait venir assez facilement. Ensuite, mon père a décidé de s'enraciner un peu plus. Enfin, c'est pas lui qui a décidé, en fait, c'est le destin historique. Qui fait que le travail, etc., fait qu'il est resté. Et donc, nous, on l'a rejoint en 1968.
Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez eu une scolarité très difficile en arrivant en France en raison d'un instituteur pied noir qui, visiblement, était raciste.
Oui, c'est le souvenir le plus redoutable que j'ai de cette période à Sartrouville. J'arrive en fait d'Algérie le 20 août 1968 et je suis scolarisé immédiatement à la rentrée, donc en septembre, et je ne parle pas français. Je n'écris pas le français et je ne comprends rien au français. Moi, je ne parlais que l'arabe dialectal et l'arabe, évidemment, littéraire, et je l'écrivais. Et donc, je suis passé du statut d'un brillant élève en Algérie, premier de la classe, c'est quand même pas mal, à une sombre histoire, puisque je suis scolarisé dans cette école avec un instituteur, effectivement, qui a vécu en Algérie et qui était d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'il maltraitait les enfants. Et qui étaient ces enfants ? C'était en majorité des Algériens dans cette classe, puisque nous habitions au 113 chemin de Chatou, qui était juste à côté de cette école, c'est-à-dire un bidonville. Et pour lui, on était des félagas, ou des enfants de félagas. Il ne faisait pas la différence.
Il poursuivait en quelque sorte la guerre d'Algérie sur des enfants.
Pour lui, la guerre d'Algérie n'était pas terminée. Nous avions, en plus, comme on était des garçons, on était deux fois des ennemis. Il employait des mots très très forts, il nous insultait tous les jours. C'était bourrique, c'était tête dans béton. Voilà, ça veut dire tête de béton. Des mots extrêmement violents et blessants. Et puis, il passait à l'acte, puisque il frappait. À l'époque, c'était... je dirais que c'était pas autorisé, mais enfin, pour lui, il y avait pas de problème.
Le paradoxe, c'est qu'on est en plein mai 68. On est quelques mois après mai 68.
Absolument. On est dans une période où il y a eu des acquis incroyables pour une grande partie de la jeunesse qui s'était révoltée à l'époque et qui demandait une autre vie, un autre rapport à l'institution, etc. Et nous, on était au Moyen-Âge avec ce monsieur. Et donc, c'est un vrai paradoxe. D'un côté, mai 68, la liberté, un vent de liberté soufflait. Et d'un autre côté, des enfants qui étaient mis dans une situation d'une extrême violence avec, et c'est ça qui est le plus terrible, tout ça était couvert. C'est-à-dire que l'institution, tout le monde savait, mais personne ne disait rien. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire que c'est une exception ou un dérapage. Non, non, c'était institutionnalisé dans la mesure où dans toute l'école, tout le monde savait que ce monsieur-là était d'une grande violence, mais il était couvert.
Ça a eu quelles conséquences sur votre scolarité, Mohamed Kaki, vous qui étiez un brillant élève en Algérie ?
Alors, justement, jusqu'à aujourd'hui, je m'interroge encore, puisque j'écris en ce moment justement un roman sur cette affaire, mais par un détour lointain par la Kirghizie. Puis j'essaye aussi, avec des recherches universitaires, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment se fait-il que, j'allais dire entre guillemets, je m'en suis sorti. L'effet que ça a fait sur moi très rapidement, c'est que j'étais dans un paradoxe. Voilà un monsieur qui nous traitait de bourricots. Et moi, je savais profondément que je n'en étais pas un et que je ne pouvais pas passer de brillant élève à quelqu'un qui n'était rien, selon ce monsieur. Donc, ça a eu un effet de, je dirais, de mobilisation. Et d'ailleurs, en recherchant un peu, cette mobilisation, elle est née à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quelque chose dont je viens de prendre conscience tout de suite. Effectivement, la mobilisation, elle date de cette-là. C'est-à-dire que j'ai refusé, au fond, de me soumettre. Et je dirais, je ne me soumettrai jamais. Je pense que j'étais petit et à mon fort intérieur, je me suis dit, jamais je me soumettrai.
Votre réponse à l'humiliation, ça a été la révolte et l'engagement.
Oui, c'est-à-dire que c'était le constat d'une injustice très grave. Et donc, du coup, ma réponse a été l'engagement dans le savoir, la connaissance. J'ai pris, grâce à des rencontres, parce qu'en fin de compte, ce destin historique m'amenait droit au mur, mais j'ai eu la chance de croiser des gens, en particulier deux personnes âgées, juste à ce moment-là, qui passaient dans ma route et qui habitaient une grande maison bourgeoise. Et je me souviens, c'était un couple, le monsieur s'appelait Marcel et la dame, on l'a appelée Marcella. Donc, il y avait grève ce jour-là. Et donc, ils allaient faire leurs courses à pied. Et donc, c'était des personnes âgées. Donc, moi, je les ai aidés à ramasser un peu leurs sacs. Et donc, en récompense, ils m'ont invité à boire un chocolat chez eux. Et puis, à partir de là, ils m'ont proposé de m'aider à faire mes devoirs. Et donc, au fond, j'ai appris à lire et à écrire grâce à eux, puisque c'est eux qui m'ont aidé énormément, et non pas cet instituteur. L'école ne m'a rien appris. J'ai tout arraché à l'extérieur, en fait. Et donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, on peut apprendre en dehors de l'école.
C'est très émouvant ce que vous nous racontez là, Mohamed Kaki. Deux personnes âgées qui rencontrent un petit Algérien et qui l'aident à faire ses devoirs. Vous devez beaucoup à ce couple de personnes âgées.
Oui, c'est une grande chance. Je leur dois énormément. Je pense souvent à eux parce que ils se sont trouvés dans mon chemin. Et c'est un merveilleux cadeau parce que sans eux, probablement que j'aurais un destin violent et similaire à beaucoup de mes camarades qui ont été foudroyés, il faut le dire, toute ma génération de cette classe-là a fini dans des conditions extrêmement violentes. Parce que la violence amène la violence, c'est-à-dire quand on vous maltraite, eh bien vous finissez par, perdre pied.
Vous voulez nous dire que certains de vos camarades sont devenus délinquants notamment ?
Beaucoup sont morts de morts violentes que je connais. Malheureusement, beaucoup n'existent plus. Certains n'ont pas eu de chance du tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu avoir les joies de l'écrit et de l'accès au savoir. Parce que, effectivement, le savoir permet de prendre de la distance avec la violence. Et donc, c'est une autre arme redoutable pour pouvoir se défendre.
Vous vous rappelez certains livres que vous avez pu lire à cette époque, Mohamed Kaki ?
On n'avait pas beaucoup accès à la lecture, hein, il faut le dire, parce que les conditions étaient extrêmement difficiles. Il faut rappeler que c'était un environnement bidonville, extrêmement difficile, avec le froid, les conditions terribles. Pas d'accès à la bibliothèque, rien du tout. Moi, j'ai pu avoir accès, grâce à une deuxième rencontre, un curé que j'ai croisé comme ça, en tout cas quelqu'un qui était engagé dans la foi catholique. Hein. Avec ce monsieur, on a créé, j'avais à peine 15 ans, on a créé une maison du savoir. Et donc la maison du savoir, c'était une étape extrêmement importante qui permettait de dire que ce n'est pas foutu, que c'est jamais foutu. Et que à tout moment on peut accéder au savoir et reprendre des études. Et c'est pas parce qu'on nous a empêchés à un moment donné que les conditions générales ne pouvaient pas nous permettre d'accéder au savoir et aux études que c'était foutu pour la vie. Et donc, on a créé cette maison du savoir, et donc, on s'est donné les moyens de la lecture, etc. Et pour revenir à votre question précisément, c'est la rencontre avec un bibliothécaire municipal. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les bibliothèques municipales. C'est là que j'ai rencontré un certain Pierre, qui m'a fait rentrer. J'avais jamais lu un livre de ma vie à l'époque. Et il m'a fait connaître un auteur qui s'appelle Chingiz Aitmatov. Chingiz Aitmatov est particulièrement... Il a fait plusieurs romans, dont un dont je me souviens, puisque il m'amène beaucoup à réfléchir. Il s'appelle Jamilia, et c'est l'histoire de la Kirghizie, et l'histoire qui est un peu mon histoire, puisque au fond, il s'agit de nomades. Il s'agit de vie collective, il s'agit de pudeur, il s'agit de plein de choses comme ça. Et donc, ce merveilleux livre, j'en ai lu plusieurs après, puisque toute une série, Les rêves de la Louve, etc. C'est un peu comme ça. En fait, à chaque fois, je me rends compte que c'était par hasard, que les choses se font par hasard, de la même manière que j'ai fait du judo par hasard. Et donc, à chaque fois, il faut comprendre que cette époque-là, personne ne nous accompagnait. C'était tout ce que j'ai trouvé devant ma route, j'ai été le chercher et je me suis inscrit tout seul au judo, je me suis inscrit tout seul à la bibliothèque.
Vous êtes allé ensuite à l'université Mohamed Kaki, mais après un détour.
Oui, je suis allé à l'université plus tard en passant un truc qui s'appelle l'examen spécial d'entrée à l'université. Et donc, j'étais déjà un peu préparé, puisque, en fait, j'avais lu. Je m'intéressais particulièrement à la sociologie, à la politique, des choses comme ça, en lisant un peu comme un autodidacte, c'est-à-dire un peu de tout. C'était pas ordonné, c'était pas structuré. À Nanterre, précisément, j'avais là 19 ans et j'étais veilleur de nuit à la fac de Nanterre. Et à la fac de Nanterre, la nuit, je voyais beaucoup d'étudiants africains. Pour la majorité d'entre eux, et ils passaient leur nuit à lire. Et ils lisaient des livres de sciences politiques, des choses comme ça. Et moi, n'étant inscrit nulle part, n'ayant aucun projet, eux, ils avaient un projet qui était évidemment de retourner chez eux, d'avoir des postes, etc. etc. C'était l'objectif final. Et donc, comme par mimétisme, je me suis lié d'amitié avec la majorité d'entre eux, et donc je me suis mis à lire, parce que la nuit est longue. Et donc, ils m'ont donné des livres, justement, de droit, de sciences. Et donc, c'était une soif de savoir et de connaissances telle que je pouvais lire n'importe quel livre. C'est à ce moment-là, la deuxième étape extrêmement importante qui m'a conduit ensuite à m'inscrire à l'université par la suite.
L'invité de Parcours est Mohamed Kaki. On se retrouve dans quelques instants.
Parcours sur Radio Orient.
Retour sur le plateau de Parcours. Nous sommes toujours en compagnie de Mohamed Kaki, fondateur de l'association Les Oranges. Vous nous avez raconté comment vous vous êtes inscrit en fac alors que vous étiez veilleur de nuit à Nanterre. Pourquoi la sociologie vous a-t-elle intéressé ?
Bien, la sociologie, c'est une autre rencontre. Je rencontre un monsieur qui était étudiant en sociologie, en anthropologie, qui s'appelle Alain Mahé, qui est aujourd'hui directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Je l'ai rencontré par hasard. Et donc, une fois de plus, une très belle rencontre. Il m'embarque avec des copains à lui. On était très jeunes, hein, entre 20 et 22 ans, à la cité universitaire de Antony. Et là, je me retrouve, pareil, une fois de plus, dans un monde qui n'était pas le mien, mais dont j'ai fait mien. C'est-à-dire que partout où je vais, je fais comme les autres. C'est-à-dire que, alors qu'ils avaient un objectif structuré, bien sûr, et donc je me mets à lire des livres d'anthropologie comme eux, des livres de sociologie. On passait des nuits entières à discuter, alors que je n'étais pas étudiant, moi, eux l'étaient, donc avec des futurs, évidemment, ministres en Afrique, et puis à la Mahé, évidemment, etc., des gens qui étaient... qui avait un projet de fond. Donc, je passais la nuit. Au début, je ne comprenais pas tout. Mais petit à petit, et c'est pour ça que j'ai acquis la conviction extrêmement importante qu'en fait, il n'y a pas de préalable pour la connaissance. Il n'y a pas de préalable pour rentrer dans le savoir, dans la connaissance ou dans la culture d'une manière générale. Quand on nous dit qu'il faut avoir un niveau, par exemple, eh bien, je n'aime pas ce mot. Je trouve que tous les préalables sont des murs pour enfermer les gens. Tout être humain peut, s'il le désire, eh bien arriver à connaître une nouvelle chose.
Et ce que vous nous montrez aussi, Mohamed Kaki, c'est qu'on a tous droit à une deuxième chance.
Non seulement on a tous droit à une deuxième chance, mais ça devrait être une exigence dans notre société, c'est-à-dire la possibilité de créer les conditions de cette deuxième, troisième chance pour tout le monde, c'est-à-dire une chance à tout moment. Il y a toujours une possibilité pour accéder au savoir.
Qu'est-ce qui vous a amené, Mohamed Kaki, à vous intéresser à la mémoire de la colonisation, en particulier de la colonisation française de l'Algérie ?
Alors là encore, c'est une question importante, puisque quand on commence à creuser... Il faut tenir les deux bouts dans cette affaire-là, c'est-à-dire que pour pouvoir réfléchir sur soi, une réflexivité sur soi, se dire « mais qu'est-ce qui m'arrive au fond ?» Parce que la chose la plus terrible qu'on tente de nous faire croire, c'est qu'au fond, si on n'a pas réussi, c'est de notre faute. C'est parce qu'on n'a pas été bon, c'est parce qu'on est nul, c'est parce qu'on n'a pas assez travaillé. Or, dans les milieux populaires, eh bien, c'est là où se font les plus grands efforts. Les efforts les plus importants sont là, parce qu'on n'a rien. Et qu'à partir de rien, c'est difficile de partir quelque part. L'Algérie, oui, effectivement, pour comprendre son histoire et les conditions dans lesquelles on est, pour pouvoir prendre de la distance, il m'a fallu comprendre d'où je viens. Et donc, comprendre aujourd'hui, c'est faire un détour historique. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Et sinon, on intègre ça comme un malheur personnel. Et donc, comme il n'était pas question que je l'intègre comme un malheur personnel, eh bien, je l'ai intégré dans une dynamique collective. Et l'histoire coloniale, j'ai compris que, très rapidement, que c'était un des facteurs importants de l'oppression générale. Et qui fait que cette malchance dont on nous parle, en fait, n'est pas une malchance, mais ce sont des conditions objectives. Et que je ne suis pas le seul, et que des centaines de milliers d'enfants comme moi ont été écrasés à cette époque-là parce que on était les héritiers de cette histoire coloniale. Et c'est ça qui est important, c'est comment faire de notre histoire personnelle une histoire collective. Et c'est ça la vraie force. Et donc, c'est arrivé très rapidement la question, puisque je m'intéressais spécifiquement à la sociologie, mais en s'intéressant à la sociologie, très rapidement, je me suis intéressé à la sociologie de l'Algérie, et la sociologie d'Algérie m'a amené à l'histoire coloniale de l'Algérie, mais bien plus large. Au-delà des murs de l'Algérie, c'est l'histoire coloniale en général.
Vous vous êtes aperçu, quand vous vous êtes intéressé à l'histoire de l'Algérie, que vous ne saviez pas grand-chose ?
Oui, absolument. Non seulement que je ne savais pas grand-chose, mais qu'en plus, que la situation était bien pire que l'intuition qu'on avait. On avait une intuition, on savait que c'était difficile, mais la situation était pire que je ne savais. Moi, par exemple, à ce moment-là, quand j'ai commencé à interroger les miens, qui ne voulaient toujours pas parler, mes parents, etc., j'ai appris un peu par des bribes qu'au fond, eh bien, on affamait les populations et on spoliait les terres. Et on créait les conditions d'un asservissement total. C'est d'une violence inouïe. Violence inouïe qu'ont subi nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. C'est le même fil d'histoire. hein, parce que c'est pas un hasard les discriminations qu'on a aujourd'hui ou celles de nos enfants, parce que cette affaire n'est pas terminée, cher monsieur. Cette affaire n'est absolument pas terminée, puisque aujourd'hui, par le prénom qu'on a, il y a un parcours fléché. Il y a des postes qui ne nous sont pas autorisés. Par exemple, mais dans plein d'autres domaines. Là, je vais jouer Tchekhov, par exemple. Est-ce que vous pensez une minute qu'un metteur en scène va, à moi ou à ma fille qui est actrice, lui donner Tchekhov ou autre ? En fait, ils vont toujours nous proposer des choses qui sont en lien avec le misérabilisme, l'immigration, des choses qui enferment. Alors que moi, je suis pour l'universel, des choses qui ouvrent. Moi, je voudrais travailler sur le cinéma australien ou autre, des acteurs du monde entier, argentins, etc. Pourquoi seulement des acteurs algériens ? Même si ça m'intéresse. Vous voyez, l'enfermement, il est institutionnel. Et c'est pour ça que cette question, elle est structurelle, au-delà de ma personne. Mais en même temps, c'est intéressant de savoir quelles sont les conditions de ma mobilisation. Et une mobilisation permanente, parce que c'est ça qu'il faut rajouter, une détermination, une mobilisation permanente, puisque aujourd'hui, à l'âge de 58 ans, je ne suis pas démobilisé, je suis toujours aussi déterminé qu'à l'âge de 8 ans.
Vous êtes militant, vous êtes engagé à 100% aujourd'hui.
Je suis déterminé à 100% pour la justice, pour l'égalité, pour que un homme égale un homme. Et c'est ça qui m'intéresse. Je ne supporte pas les injustices. Et c'est pourquoi tous les peuples qui souffrent dans le monde, je me sens solidaire d'eux. Je me sens solidaire dans toutes les contrées du monde où les gens souffrent, où les gens sont dans l'oppression, parce que c'est inacceptable.
Mohamed Kaki, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née votre association Les Oranges ?
Alors, l'association Les Oranges est née en 2003, en fait, puisque en 2003, il y avait l'année de l'Algérie. L'année de l'Algérie avait été oubliée à Nanterre, et lors des assises de la ville, j'ai interpellé les élus en disant « Mais écoutez, est-ce que vous savez que dans 2 mois, c'est un mois et demi même, puisqu'on était en novembre 2002, il y aura l'année de l'Algérie ?» Et donc, à ce moment-là, très rapidement, tout le monde a pris conscience qu'il y avait l'année de l'Algérie. Et à cette occasion-là, moi, j'ai proposé deux projets citoyens. Le premier, c'était un colloque international qui s'intitulait « Mémoire algérienne, hommage à Abdelmalek Sayad », un grand sociologue algérien pour lequel j'ai fait un travail important aussi. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et la deuxième, c'était de jouer une pièce de théâtre qui s'appelait Les Oranges. Alors, Les Oranges, c'est quoi ? C'est la symbolique de l'amour et de la paix, les Oranges d'Algérie. Et donc, c'est aussi une pièce de théâtre qui raconte l'histoire entre la France et l'Algérie de 1830 à nos jours, mais de manière drôle. Parce que c'est ça qui est important, c'est que nous ne pouvons pas être dans le drame en permanence. Il faut rire. Et il faut rire des drames. Moi, je ne me sens pas victime. Je me sens responsable. Responsable au sens de mobiliser. Et j'ai une responsabilité dans cette mobilisation individuelle et collective. Et donc, les Oranges sont nées à partir de 2003. J'ai joué cette pièce au Théâtre des Amandiers, qui a eu un grand succès. Et ensuite, on a créé l'association Les Oranges, puisque beaucoup d'amis m'ont dit « Mais tu ne peux pas t'arrêter là ». Et donc, ensuite, le colloque également a eu un grand succès, et c'est à partir de là aussi que j'ai commencé un travail d'engagement pour le grand savant Abdelmalek Sayad.
Qui a maintenant un lieu à son nom, à Nanterre.
Oui, je suis fier de 2 choses. La première, c'est que je me suis battu pendant longtemps, moi, l'association, avec des amis, pour qu'on obtienne dans l'espace public quelque chose pour le 17 octobre 1961. On avait demandé une rue, et donc on a obtenu un boulevard du 17 octobre, qui est unique en France, à Nanterre, le boulevard du 17 octobre 1961.
On rappelle le 17 octobre 1961, des Algériens massacrés par la police française alors qu'ils manifestaient pour l'indépendance de l'Algérie.
Sous les ordres du préfet Maurice Papon, effectivement, Une terrible répression de la police à l'époque qui a massacré plus de 300 personnes jetées à la Seine, des femmes, des hommes, des enfants. Et donc ça a été terrible. Et donc on a obtenu un boulevard du 17 octobre. La question de l'espace public, c'est quelque chose d'important. Et puis une rue, Abdelmalek Sayad, et un groupe scolaire, Abdelmalek Sayad. Ce sont deux choses importantes. L'espace public, pour moi, il est important. Pourquoi il est important ? Parce qu'il permet la sensibilisation au savoir, à la connaissance historique. Les gens qui vont passer au boulevard du 17 octobre, ceux qui ne connaissent pas vont s'interroger, ils vont dire qu'est-ce que c'est ?
La transmission, Mohamed Kaki, c'est quelque chose d'important pour vous ? Transmettre ce qu'on vous a transmis ?
Oui, absolument. La transmission, pas forcément au sens académique du terme, bien que j'ai depuis plusieurs années, engagé un travail d'alliance entre les chercheurs en sciences sociales, les artistes et les militants associatifs pour la transmission de l'héritage. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, comme dirait Noam Chomsky, les mots font le monde. Et moi, je n'accepte pas, par exemple, le mot « issu de ». Parce que dans « issu de », il y a voix sans issue. Vous voyez, les Français issus de l'immigration. Moi, je dis les héritiers. Français héritiers de l'immigration coloniale. Parce que dans « héritier », il y a « héritage ». C'est-à-dire qu'on a un héritage de combat derrière nous. En 1937, le PPA, le Parti du Peuple Algérien, de Mess Ali Hadj, a été créé à Nanterre. En 1937 précisément. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos parents, nos grands-parents étaient déjà engagés dans la politique. Et contrairement à ce qu'on nous raconte comme fable, c'est-à-dire le misérabilisme, les bidonvilles, les rats, etc., c'est pas que ça, les Algériens. L'histoire des Algériens est beaucoup plus riche que ça. Hein, est une histoire culturelle, une histoire d'investissement dans les syndicats, dans les partis politiques, et qu'il faut retrouver les traces de ce nœud important pour le restituer. Comme vous le dites, vous avez tout à fait raison, pour nous, c'est important de le transmettre. Mais ça ne se fait pas par la transmission académique, ça se fait également par le théâtre.
Alors le théâtre a joué un grand rôle et joue un grand rôle dans votre vie. Vous êtes à la fois un militant associatif et un acteur, un comédien.
Oui, le théâtre, c'est encore une belle rencontre que j'ai rencontrée en 1986 des Italiens, la Commedia dell'arte à l'époque, et avec eux je me suis engagé dans une belle aventure et j'ai joué plusieurs pièces. Au théâtre, c'est ça, c'est qu'on peut dire des choses qu'on peut dire nulle part. Et moi, grâce à l'émotion, grâce à plein de choses, et on peut transmettre des choses qui sont impossibles à transmettre de manière académique ou par la voie dite normale. Et c'est ça qui est formidable. Moi, j'ai rencontré des lycéens à travers le 17 octobre, puisque j'ai joué une pièce qui s'appelait « La pomme et le couteau » sur l'histoire du 17 octobre 61. Et ça leur a donné envie de lire. Pareil pour l'histoire de l'Algérie, les Oranges. C'est une histoire qui donne à chaque fois envie de lire, envie de connaître. Et donc, favoriser le désir d'apprendre, le désir du savoir, le désir de l'accès à la culture, pour moi, c'est un des objectifs centraux.
Vous êtes né en Algérie, vous êtes retourné ensuite en Algérie, vous avez fait plusieurs visites dans votre pays de naissance.
Oui, j'y suis allé régulièrement, à la fois comme touriste, invité dans la famille, évidemment, mais aussi invité pour des conférences. Par exemple, là, j'ai été invité par une association sur le 8 mai 45, à Sétif même, où j'ai été invité. J'ai rencontré des chercheurs algériens, j'ai fait connaissance et j'ai découvert une richesse extraordinaire, c'est-à-dire des chercheurs merveilleux, etc. Et ça m'a donné l'idée simple, c'est que si on veut travailler la transmission, le savoir, la connaissance, favoriser ce pont entre les deux rives de la Méditerranée, eh bien, il faut faire travailler les chercheurs des deux côtés de la Méditerranée ensemble. Chercheurs français, chercheurs algériens, maghrébins, d'une manière générale, pour favoriser justement un nom commun.
On peut imaginer une histoire commune de la France et de l'Algérie.
Oui, absolument. C'est entremêlé. 132 ans d'histoire, ça a laissé aussi des traces positives, importantes aussi, de liens, etc. Paradoxalement, les Algériens n'en veulent pas à la France. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'en veulent pas aux Français. Ils en veulent au système, ce qui est différent. Faut pas. Moi, je ne veux pas qu'on mélange, si vous voulez, les dirigeants d'une époque et le peuple français. Le peuple français n'y est pour rien dans cette aventure guerrière.
Vous n'êtes pas favorable à la repentance ?
Absolument pas. Je ne suis pas favorable à la repentance parce que ça a une connotation, je dirais, culturelle, religieuse, qui n'a rien à voir dans le débat politique. Je pense que ce qui est le plus important, c'est la reconnaissance. Et la reconnaissance n'est pas la repentance, contrairement à ce que veut nous faire passer comme message certains dogmatiques.
À qui et à quoi êtes-vous fidèle, Hamed Kaki ?
Bien, moi, je suis fidèle à l'amitié. C'est la chose la plus belle. D'ailleurs, j'ai fait cette année avec mon ami Alain Mahé un séminaire, ce qui s'appelait Amitié, inimitié. C'est la chose la plus belle du monde et c'est la chose à laquelle je postule. Travailler sans cesse l'amitié entre les peuples, c'est important. Mais comment le faire ? C'est en transpirant collectivement ensemble. Cette transpiration collective, c'est-à-dire faire des choses ensemble, travailler ensemble, se connaître en travaillant ensemble. Et c'est à partir de là qu'on pourra consolider des liens. Et c'est en consolidant des liens que l'on peut faire pousser des belles fleurs. Et moi, je crois vraiment, c'est pour ça que je suis toujours en train de faire des choses collectives, c'est-à-dire que ce soit par le théâtre, par des conférences de débat, ou par... La rencontre, pour moi, elle est essentielle. Parce que dans ma vie, elle m'a apporté l'administration de la preuve que l'on peut, je dirais, voir le soleil.
Merci, Hamed Kaki, d'avoir été l'invité de Rencontre.
Merci à vous.
C'était Parcours sur Radio Orient.